VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guériac au micro en direct de Washington DC. Il est 18h30 temps universel. Bienvenue à cette édition du mercredi 31 janvier 2018. À la une ce soir, le Cameroun a mené une opération militaire au Nigeria où sont réfugiés des milliers d'anglophones. En République démocratique du Congo, l'armée vient de défaire la rébellion des Mai Mai Yakutumba en territoire de Fidji. Nous ferons également le point sur les grèves au Togo, au Burkina Faso et au Tchad. Dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Des forces de sécurité camerounaises ont passé la frontière vers le Nigeria où des milliers d'anglophones camerounais se sont réfugiés. Une incursion qui intervient peu après l'extradition des leaders séparatistes anglophones. On fait le point avec Nathalie Barge.
La presse nigériane et camerounaise rapporte que 80 gendarmes camerounais ont mené une opération militaire lundi à Danaré, où sont réfugiés des milliers de Camerounais anglophones. Selon des réfugiés dans l'état de Cross River, une soixantaine de soldats camerounais sont venus la semaine dernière à Danaré pour dire que leur village d'origine était sécurisé et qu'ils pouvaient revenir chez eux. Des habitants de Danaré ont souligné que les soldats n'avaient pas effectué d'opération armée. Des forces de sécurité du Cameroun sont venues dans le district de Boki, ont indiqué les autorités de l'état de Cross River, affirmant qu'elles sont déjà venues dans le district d'Ekang en décembre. Le président du mouvement séparatiste anglophone, Sisiku Ayuktabe, interpellé au Nigeria, a été extradé lundi au Cameroun avec 46 de ses partisans.
Au Nigeria, des hommes armés suspectés d'être des éleveurs peuls ont tué au moins 7 personnes dans l'état de Nassarawa, dans le centre du pays. C'est ce que rapporte la police, estimant que cette tuerie pourrait être en représailles à une autre attaque perpétrée le week-end dernier par les agriculteurs Kiv. 73 têtes de bétail ont été abattues et 2 éleveurs sont portés disparus. Le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU lance un appel de fonds de 157 millions de dollars pour venir en aide aux réfugiés qui ont fui les violences de Boko Haram dans la région du lac Tchad. Les Nations Unies entendent ainsi venir en aide à 208 000 réfugiés nigérians et leurs 75 000 hôtes au Niger, au Cameroun et au Tchad. Depuis son commencement en 2009, le conflit a conduit au déplacement de 2,4 millions de personnes. Dans le nord du Mali, le maire de Tarkint, porté disparu depuis une dizaine de jours, a été enlevé par des hommes armés. C'est ce qu'annoncent sa famille et des sources de sécurité. Par ailleurs, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste du Sahel, a revendiqué 2 attaques contre l'armée malienne la semaine dernière, selon l'agence privée mauritanienne Al Akhbar. Nouvelle journée de grève au Togo, où des milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Lomé à l'appel de l'opposition pour protester contre le régime en place. Claire Morin-Gibourg.
Après les enseignants des écoles primaires et secondaires du secteur public, le personnel de plusieurs centres de santé s'est mis en grève aujourd'hui pour 2 jours à l'appel du syndicat national des praticiens des hôpitaux du Togo. Au CHU Sylvanus Olympio, les bureaux de certains services sont restés fermés. Un service minimum a cependant été assuré au bloc opératoire et à la réception. Le syndicat exige notamment un meilleur équipement des hôpitaux publics et le recrutement du personnel soignant. Les enseignants en grève réclament, eux, une augmentation de leur prime salariale. Les discussions entamées mardi avec le gouvernement n'ont encore rien donné. La tension reste vive sur le campus de Lomé où les étudiants protestent contre les mauvaises conditions d'enseignement et la hausse brutale des frais de scolarité.
Grève de 24 heures au Burkina Faso du syndicat de la santé. La plupart des centres de santé ont été désertés par les agents de la santé qui soutiennent un médecin poursuivi pour la mort d'une patiente. Bagasikoura.
Les centres de santé et la plupart des hôpitaux publics ont tourné au ralenti. Pour parer au blocage total des services dans certains endroits, le gouvernement a mis en place un plan B pour assurer la continuité des soins. Des médecins militaires ont été réquisitionnés. Le syndicat des agents de la santé entendait protester contre le procès ce matin de Nongezanga Kabore, un médecin poursuivi pour la mort d'une patiente en 2012, inculpé pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Ce matin, à Waiguia, dans le nord du pays, à l'issue d'une audience de 3 heures, le parquet a laissé tomber la première charge et n'a retenu finalement que la non-assistance à personne en danger. 6 mois d'emprisonnement avec sursis ont été requis par le procureur et le verdict est attendu à la mi-février.
Au Tchad, les fonctionnaires entrent dans leur 2e jour de grève générale et illimitée. Selon les organisateurs, le mouvement est largement suivi. Jusque-là, il n'y a pas de discussion avec les autorités. Idriss Fall a joint N'Djamena Younous Mahadjir, président de l'Union des syndicats du Tchad.
Aujourd'hui, à N'Djamena, la grève a été respectée par tout le monde, totalement par les services publics, sauf un service minimum qu'on a installé dans les centres de santé. Et avec notre participation, nous avons installé le service minimum. Ailleurs, dans les provinces, jusque dans le désert, nous avons les informations de nos cellules qui disent qu'ils ont observé totalement la grève.
Est-ce qu'il y a des discussions avec le gouvernement?
Jusqu'à maintenant, non. On n'a pas eu de discussions. Ils disent qu'ils sont ouverts. Nous aussi, on est ouverts. Mais il n'y a pas eu de discussions. Le gouvernement ne nous a pas appelés. Il dit tout simplement qu'il est ouvert. Mais nous aussi, on est ouverts. Mais je pense bien que c'est au gouvernement de dire, bon, venez, on va discuter. Ce n'est pas à nous de dire au gouvernement de venir, vous discutez. Mais nous sommes prêts à toute discussion. Dans tous les cas, nous n'accepterons jamais qu'on nous ampute un seul copec de nos salaires. Parce que déjà, nous avons des difficultés avec ce que nous avons comme salaire.
Younous Mahadjir, président de l'Union des syndicats du Tchad. En République démocratique du Congo, l'armée vient de défaire la rébellion des Maïmaï Yakutumba en territoire de Fidji. Le dernier assaut des forces loyalistes vient de libérer la presqu'île d'Ubuari, dernier retranchement des Maïmaï Yakutumba. Le point avec Ernest Mouhiro, notre correspondant à Bukavu.
Selon le capitaine Diedoné Kasereka, porte-parole adjoint de FRDC au Sud-Kivu, après plusieurs attaques offensives de la 2212e flotte navale de l'armée congolaise contre l'opposition des Maïmaï Yakutumba du 28 au 29 janvier dans la presqu'île d'Ubuari, celle-ci est enfin sous le contrôle des FRDC. Le capitaine Kasereka ajoute que les rebelles et leurs leaders sont en fuite vers des pays étrangers. Une autorité coutumière de la place qui a requis l'anonymat confirme la prise d'Ubuari, mais selon lui, il n'y a pas eu des affrontements à proprement parler la nuit du mardi, car le Maïmaï, profitant du répit observé après les pilonnages de l'armée le dimanche passé, se sont retranchés discrètement de la presqu'île. Selon l'organisation non gouvernementale Sireski, centre indépendant des recherches et d'études stratégiques au Kivu, depuis le début des opérations des FARDC pour déloger les Maïmaï Yakutumba en territoire de Fizi, voilà 10 jours, il y a plusieurs déplacés internes et externes dans la population civile. Sireski avance un chiffre de plus de 8000 habitants qui ont fui vers le Burundi et environ 10 000 déplacés internes arrivés principalement dans la cité de Baraka, à Mboko et même à Uvira via les beaches de Maendeleo. L'opinion locale à Uvira salue la prouesse de l'armée régulière qui vient de démanteler les Maïmaï en 10 jours, libérant ainsi une vingtaine d'agglomérations du secteur de Nganja et Mutambala en territoire de Fizi. Ernest Mouhiro, Bukavu, VOA Afrique.
A noter également que ces combats dans la région de Fidji ont entraîné la fuite de 37 miliciens Yakutumba vers le Burundi. D'après la police burundaise, ils ont été accueillis à Rumungé. Au Niger, le procès en cassation de l'opposant à Mahamadou s'est tenu aujourd'hui à Niamey. Le délibéré sera connu le 28 février. Ancien Premier ministre et ex-président du Parlement, vivant à l'étranger, il avait été condamné par contumace à 1 an de prison par la Cour d'appel pour recel d'enfants dans un trafic international de bébés. Adiza Amadou, une de ses épouses, a également écopé 1 an de prison ferme. Côte d'Ivoire, les sites pollués par les déchets toxiques du Probo Koala ne sont plus dangereux. C'est ce qu'affirme le programme des Nations Unies pour l'environnement. En revanche, l'ONU souligne que les dizaines de milliers de personnes intoxiquées doivent être suivies médicalement. Rappelons qu'en août 2006, le cargo Probo Koala avait débarqué à Abidjan des déchets hautement toxiques. Au moins 17 personnes sont mortes et des dizaines de milliers d'autres intoxiquées. Au Kenya, les autorités estiment que l'investiture symbolique de l'opposant Raila Odinga comme président du peuple était une tentative de renverser le gouvernement.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Emmanuel Macron est arrivé en Tunisie pour soutenir la transition démocratique de ce pays fragilisé par les difficultés économiques et sociales 7 ans après la révolution. Congrès du dialogue national syrien, le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan se disent satisfaits des pourparlers de paix sur le conflit en Syrie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Le taux de couverture du franc CFA zone CEMAC a bondi à 63% à la fin 2017. Les gouvernements ont réduit une partie des dépenses en devises, ce qui a stabilisé les réserves de change. Les décaissements du FMI ont aussi renforcé ces résultats. Néanmoins, les États de la zone CEMAC refusent systématiquement de fournir à l'institution d'émission monétaire BEAC les données sur les contrats d'exploitation des ressources. Les ministres des Finances de la CEMAC se réuniront vendredi 2 février à Douala. La Côte d'Ivoire injecte près de 3 milliards de dollars dans les infrastructures routières en 2018. C'est pour renforcer la voirie urbaine de la ville d'Abidjan, réhabiliter 3916 km de routes bitumées interurbaines et construire de grands ouvrages d'art. Les villes de l'intérieur du pays connaîtront une extension du revêtement des routes des chefs-lieux de districts, de régions et de départements. L'Égypte va créer de villages touristiques sur une superficie de plus de 2 millions de mètres carrés dans la ville d'El Daba, sur la côte nord du pays. Ce projet coûtera environ 565 millions de dollars. Le nouveau code d'investissement accorde une réduction de 50% d'impôts sur les investissements réalisés dans les zones sous-développées, permet l'acquisition des terrains pour des projets industriels et favorise la création de zones franches pour inciter l'investissement privé.
Un peu sur les stades, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgan.
Jour J pour les demi-finales du Chan au Maroc.
Et oui Morgan, le Maroc, pays organisateur et grand favori de la compétition, a accroché en demi-finale contre la Libye. Les Lions de l'Atlas pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score par El Kabi à la 73e minute de jeu. Mais les chevaliers de la Méditerranée, vainqueurs du Chan 2014, ont de la ressource. Kelafa égalise en toute fin de match à la 90e minute de jeu. On joue actuellement les prolongations et pour le moment 2-1. El Kabi encore lui a inscrit le deuxième but. Un peu plus tard, la seconde demi-finale opposera le Nigeria au Soudan à Marrakech.
Les transferts en football.
Arsenal et Dortmund ont trouvé un accord pour le transfert immédiat de Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de 141 buts au sein du club de la Roue, selon Dortmund. Les Londoniens ont déboursé 63,75 millions d'euros. Conséquence, l'attaquant français Olivier Giroud, barré par l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal, a rejoint Chelsea qui prête le Belge Michy Batshuayi à Dortmund, ont annoncé mercredi les clubs concernés.
Et Tofis, lui, reste en Turquie.
Tout à fait. L'ex-international camerounais s'est engagé avec le club turc de Konyaspor au lendemain de la résiliation de son contrat avec une autre équipe turque, Antalyaspor. Samuel Eto'o, 36 ans, a signé un contrat pour 2 saisons et demie avec son club, son nouveau club disons, dont une en option. L'attaquant camerounais avait rejoint la Turquie et Antalyaspor en juin 2015 après avoir évolué notamment au FC Barcelone, à l'Inter Milan, à Chelsea ou encore à l'Anzi Makhachkala, c'est en Russie.
Le PSG accède à sa première finale de la saison.
Le Paris Saint-Germain, quadruple tenant du titre, s'est qualifié pour sa 5e finale de Coupe de la Ligue consécutive en allant battre Rennes 3-2 hier. Les buts parisiens ont été inscrits par Menu à la 24e, Marquinhos à la 53e et Lo Celso à la 58e. Mais Mbappé a reçu, disons, le premier carton rouge de sa carrière pour une vilaine faute par derrière sur Sarr à la 63e. Rennes est revenu en toute fin de match sur des buts de Sakho à la 85e et Persich Autriche à la 92e. La seconde demi-finale oppose Monaco à Montpellier ce soir.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Diriac en votre compagnie, place au dossier du jour. En République centrafricaine, des groupes armés perturbent la tranquillité des habitants du quartier kilomètre 5 de Bangui. Et ces miliciens prétendent pourtant assurer la sécurité des populations. Les commerçants du PK5 avaient certes financé des groupes d'autodéfense pour protéger le quartier, mais ces derniers ont laissé place à d'autres bandes désorganisées. Yacouba Ouédraogo a joint Youssouf Djibril, président de l'association des commerçants du quartier kilomètre 5.
Il y en a qui ont laissé leurs armes et puis ils ont rentré dans le visage. Il y en a qui ont parti à la DDCVR. Mais le reste là, moi je crois qu'ils ne sont pas des groupes.
Oui, vous dites que ce ne sont pas des groupes d'autodéfense. Qui sont-ils?
L'autodéfense va défendre la population. Mais quelqu'un qui détient les armes, ils sont brûlés même tout le marché. Si tu même parles, même c'est des problèmes. Si tu intervenais, c'est des problèmes. On te mélange un système. Voilà, comment pays dans cet état? France autodéfense à défendre la population. Nous n'avons pas de secours, ni côté d'opinion intéressante, ni côté du gouvernement. Depuis des années qu'on vivait comme ça.
Est-ce que vous connaissez leur identité? Et qui sont-ils?
La majorité, c'est des centrafricains. Il y en a qui sont nés en province, il y en a qui sont nés ici.
Qu'est-ce qu'ils font exactement dans les quartiers? Comment ils persécutent la population?
Ils ont leur groupe, c'est-à-dire ils ont leur fonction, chacun ils ont leur base. C'est pour ça que l'enfant, parce qu'on a demandé le démantèlement, des fois on demande tous les bases. Quelqu'un qui est désespéré, qui n'a pas de travail, qui est un bandit, il va commettre ses actes, après il va regagner aux bases, et puis le base va les défendre. Par exemple, le groupe, ils ont venu brûler les marchés, ils ont regagné les bases, et voilà les bases, ça les défendre toujours. La population était prise en otage. La population n'a pas la force, qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous, maintenant, on va intervenir dans les ondes, on s'intervient, vous, notre vie maintenant, c'est en danger. Ils nous menacent, on va vous enlever, on va vous tuer. Même nous, on peut pas décider, bras. Nous sommes les fils de ce pays, on peut s'amuser à tout, on peut pas s'amuser à notre pays.
Qu'est-ce que ces groupes armés-là font dans les quartiers exactement? Est-ce qu'ils prélèvent des impôts? Est-ce qu'ils prélèvent des soi-disant taxes? Qu'est-ce qu'ils font aux populations?
Non, l'histoire de l'impôt, l'histoire des taxes, non, ils ne faisant pas ça. Là, il faut que les gens n'amènent pas d'amalgame. C'est-à-dire, parmi les autres de France, il y en a, c'est des il y en a qui gardaient les marchés, le fin du mois, ils venaient, ils prenaient cet argent. Parce qu'ils vivent de ça. Ça, c'était un. Les deux, à un moment donné, on a intérêt, on dit que nous, on ne voit rien de nous. Il ne faut pas casser des magasins. La nuit, on casse des 2-3 magasins. La nuit, on casse 2-3 magasins. C'est un des pressions. Donc, nous sommes obligés. Donc, on donne. Parce que quand ils ne donnent pas, on va casser ta magasin la nuit.
Combien vous donnez?
Il y en a qui prennent 5 000, il y en a qui prennent 2 000, il y en a qui prennent 3 000, ça dépend.
À quelle périodicité? C'est par mois, c'est par semaine ou quoi?
Non, chaque mois.
Il y a la MINUSCA, il y a les forces de sécurité centrafricaine. Ces forces-là ne patrouillent pas dans le quartier kilomètre 5?
Non. Les forces de défense et de la sécurité, ils ne travaillent plus. Mais si le ministère de la Défense, ils n'ont pas donné de l'autorisation, ils ne vont pas s'intervenir. Maintenant, là, c'est la ministère qui est en train de garantir la sécurité. Ils sont en train de faire des patrouilles. Donc, nous voulons aussi restaurer ça de l'autorité de l'État. Nous, on ne va pas de la police, de la gendarmerie. Mais pourquoi on ouvre la frontière, c'est pour le rendre la police, la gendarmerie et la ministère et les facas, comme ça, pour que vraiment ils sécurisent cette population.
Voilà, c'était Youssouf Djibril, président de l'association des commerçants du quartier kilomètre 5.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Des forces du Cameroun ont mené une opération au Nigeria, où sont réfugiés et des anglophones camerounais. Les leaders séparatistes anglophones ont été extradés du Nigeria vers le Cameroun et certains craignent une radicalisation du mouvement sécessionniste. Raissa Jurondin a joint Adjong Banda, rédacteur en chef du site Pan-African Vision.
Il faut reconnaître que les deux pays sont en train de lutter contre un même ennemi qui est le Boko Haram d'abord. Livrer des gens comme Ayo comme ça au Cameroun, on ne sait pas encore sur quelle base on a fait ça. On ne sait même pas les circonstances dans lesquelles les gens-ci étaient appréhendés. Parce que jusqu'à là, même le gouvernement nigérian est très 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 évasif.
Selon vous, l'extradition de Sissiku Ayuktabe, est-ce qu'elle peut envenimer la situation?
Ça risque de se dégrader, surtout qu'il y a très peu de communication autour de beaucoup de choses. D'abord, il faut comprendre que le problème, ce n'est pas Ayuk. Donc, il y a beaucoup de gens qui se radicalisent au pays
sans même l'influence d'Ayok. Je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas Ayok. Donc, ce n'est pas un problème d'un leader. Le problème se retrouve au terrain. On va gérer ça au terrain. On va gérer ça par dialogue. Mais le fait qui se passe là le pousse à se radicaliser.
Mais quelle peut être la solution?
Regardez au nord, par exemple. Quand le Boko Haram a kidnappé les gens, le président Biya a fait des efforts, beaucoup d'efforts, incluant les moyens, le gros moyen, pour qu'on libère les gens là. Bon, quand il y a les gens ont fait le coup d'État au début de son présidence, il a libéré les gens là. Et il y a d'autres qui sont même au gouvernement aujourd'hui. Je ne comprends pas comment le président ne peut pas dialoguer avec les gens. La solution passe par le dialogue. Parce que quand tu veux utiliser le militaire, il y a des pertes de vie humaine, il y a des champs détruits, il y a des maisons détruites. Quand on monte même les photos avec les maisons brûlées, avec les vieilles mamans dedans, ça pousse plutôt les gens vers à la radicalisation. Mais le gouvernement doit faire preuve de maturité. Le président doit engager lui-même le dialogue. Mais avec le militaire, c'est pas une bonne solution.
Voilà, c'était Adjonk Bamda, rédacteur en chef du site Pan-African Vision, joint à Washington.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
L'Union africaine a créé un marché unique du transport aérien. Elle vise à améliorer la compétitivité entre compagnies aériennes et le transport entre pays africains. Jusque-là, 23 pays ont adhéré à cette réforme. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Genève le chef du service de la logistique commerciale de l'UNCTAD, Jan Hoffman.
L'expérience qu'il y en a dans d'autres régions et d'autres modes de transport maritime, terrestre, ce type de marché commun, c'est positif pour les utilisateurs de toute façon, c'est positif pour les coûts de transport, la connectivité en fait, c'est même positif pour les entreprises de transport aérien au long terme parce qu'ils gagnent un marché régional où il peut se développer mieux et après il peut même être plus compétitif dans le monde. Et je félicite la Union africaine pour avoir commencé cette initiative.
Est-ce que vous pensez que l'Africain va désormais voyager à moins cher?
Je crois que ça va être un des résultats, oui. Je suis confident que ça va arriver. Bien sûr, c'est le futur, on ne sait pas. Il faut maintenant la mise en œuvre. Hein. Une fois, c'est l'accord. La mise en œuvre de cet accord, donc les régulations nationales, l'ouverture, les accords avec les lignes aériennes. Donc il faut attendre si ça va vraiment arriver, mais en principe, les Africains devraient voyager moins cher entre eux, entre les pays africains.
Est-ce que les pays, au niveau des taxes, y a-t-il un avantage particulier?
Bon, en principe, s'il y a plus de choix, normalement, la concurrence va faire que les prix doivent être moins élevés. Bien sûr, il faut toujours observer, il faut prêter attention qu'il n'y a pas des abus et maintenant il faut regarder les alliances entre les lignes aériennes. On va avoir la concurrence. Mais vous savez, ici en Europe, on dit généralement, si on doit aller d'un pays africain à un autre pays africain, très souvent, il faut aller vers Paris, vers Bruxelles, vers Londres. Et normalement, si on commence à avoir plus des options dans la région, plus d'alternatives d'aller directement entre les pays africains.
Il y a des pays comme l'Éthiopie, le Maroc, qui n'ont pas adhéré à ce marché. Vous pensez que ce n'est pas dans leur intérêt?
Je n'ai pas vraiment une opinion sur les cas spécifiques, un pays et l'autre, mais justement, les deux pays, ils ont déjà des expériences positives dans leur marché aérien. Je crois, je pense, mais je n'ai pas étudié le cas spécifique, hein, mais je crois au long terme, ça devrait probablement aussi être dans leur intérêt de faire partir de ce marché commun.
Jan Hoffman à Genève. Ici aux États-Unis, Donald Trump a tenu hier soir son premier discours sur l'état de l'Union devant les deux chambres du Congrès. Le président américain a fidèlement suivi son prompteur sous les ovations des républicains. Il a parlé d'unité, d'économie, d'infrastructure, de l'Iran, de la Corée du Nord, du statut de Jérusalem, de Guantanamo et d'immigration. Pour une réaction africaine, Dili Diko a joint Mohamed Mariko, agent immobilier au Mali.
L'exemple pour laquelle j'ai suivi le discours de Donald Trump, c'est parce que tout simplement, comme vous savez, les États-Unis aujourd'hui, n'est-ce pas, est considéré comme le pays le plus puissant. Et le président américain, quand il parle, tout Africain est intéressé par ce qu'il va dire, obligatoirement. Et parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup de problèmes. Donc quand le président américain parle, on s'intéresse pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant nous concernant.
Dans son discours d'hier, pas un seul mot n'a été dit sur l'Afrique. Comment réagissez-vous face à cela?
Le fait de ne pas parler sur l'Afrique nous montre réellement que nous ne comptons pas beaucoup sur les décideurs du monde, comme on a l'habitude de voir. Parce que quand on regarde, quand on voit comment les choses se passent en Afrique, le fait de ne pas parler de nous, ça nous montre réellement, franchement, que il n'y porte pas de considération sur notre personne et sur le continent africain en général.
Quel est votre avis sur les nouvelles normes d'immigration que Donald Trump souhaite mettre en place, à savoir supprimer la loterie de la Green Card et aussi limiter le rassemblement familial aux conjoints et aux enfants mineurs?
Les États-Unis est un pays qui a souhaité depuis dans le temps recevoir des gens. C'est la raison pour laquelle il est le pays le plus puissant par rapport aux autres pays. Donc si aujourd'hui Donald Trump décide d'arrêter ça et d'enfreindre à ça, bon, c'est sa décision. Comme il a si bien dit, il dit qu'il veut mettre en place l'Amérique d'abord. Quand on pense à soi d'abord, c'est une bonne chose, mais en n'oubliant pas que nous sommes obligés les uns les autres à venir en aide à ton frère, l'autre frère qui aura besoin de toi. Comme demain, toi aussi, tu auras besoin de lui. Pensez aujourd'hui à freiner ça. On ne peut que se contenter de cette décision-là et prendre acte. Donc vous voyez, ça peut créer beaucoup de haine chez les gens à l'encontre d'un pays que nous avons pensé être un pays de droit, un pays qui se soucie de l'humanité pour que les gens se réunissent, pour que les gens puissent avoir leur liberté, comme on l'a si bien dit, un pays de droit, de démocratie. Donc ça crée des haines à l'encontre des États-Unis, moi à mon avis. Alors que présentement, et depuis les années passées, après la guerre du Golfe, là, les gens, ils avaient des haines contre ce pays-là. Maintenant, après le passage de Barack Obama, cette haine-là a tendance à être disparue.
Mohamed Mariko, joint à Bamako.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, tout universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout, comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, on termine en musique. C'est Bruno Mars et Cardi B, Finest. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Sims Loumami, Morgane Guiriac à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook. Partagez vos points de vue, vos photos, commentez des sujets, posez des questions. N'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24/24. Au revoir.